détourner de cette pratique pas du tout hygiénique. Adamou Moussa, reportage.
Aller se mettre à l'aise dans les lits des maillots, dans les garages et autres chantiers abandonnés constitue l'une des pratiques à laquelle s'adonnent encore de nombreuses personnes dans l'extrême nord. Pour beaucoup, ce phénomène trouve ses racines dans l'insuffisance des toilettes publiques dans la ville de Maroua, par exemple. Une pratique pourtant dangereuse, surtout au moment où des cas de choléra ont été enregistrés. Fandaï Bébé, chef de centre médical de Founangué.
Il y a contamination des eaux, il y a contamination des aliments, il y a transmission par les mouches, les typhoïdes, les lamibiases, la dysenterie.
La défécation à l'air libre favorise la contraction de plusieurs maladies et il est donc urgent aujourd'hui de rappeler aux populations la nécessité d'éviter cette pratique.
Il faut éduquer la population, il faut qu'ils comprennent le bien fondé de faire des selles dans les latrines bien aménagées.
Dans les établissements scolaires, pour éviter que les élèves n'aillent se mettre à l'aise dans la rue, le dispositif pour rendre disponibles et propres les toilettes a été renforcé. Bellondida, surveillant général au lycée classique et moderne de Maroua.
Le lycée classique dispose d'une quinzaine de toilettes et a recruté déjà 2 personnes qui s'occupent de ces toilettes.
Une action saluée par les élèves qui trouvent en ces toilettes un cadre propre pour se mettre à l'aise.
Il y en a des toilettes dans notre école, elles sont bien entretenues.
Les toilettes sont propres. Avant c'était sale, mais tout dernièrement si, on a eu à nettoyer les toilettes et c'est propre.
Les toilettes sont propres tous les vendredis. On choisit certains élèves d'aller nettoyer, laver.
Les communes multiplient aussi à travers les services d'hygiène les campagnes de sensibilisation pour combattre la défécation à l'air libre. Maroua, Adamou Moussa, CRTV.
Allons à présent dans la région de l'Ouest à la rencontre de Merle Njitafo, chef d'entreprise. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat dès son jeune âge à la suite du décès de son géniteur. Malgré les difficultés rencontrées sur son parcours, il est resté droit dans ses bottes. À la faveur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Ariane Conan l'a rencontré et dresse son portrait.
J'ai abandonné les études très tôt, en classe de commande, après la mort de mon père en 87.
Cet événement tragique a radicalement changé le cours de la vie de Steve Merlin Ditafo.
J'ai commencé par vendre les aubergines ici à Babsan, dans le marché. À l'époque où j'achetais un tas à 100 francs, j'ai redétaillé pour avoir 80 francs de bénéfices.
Un Eldorado qui, malheureusement, n'a pas tenu la promesse des fleurs.
Je suis arrivé en fou. J'avais un cinerbar, restaurant, dépôt de boissons, qui marchait bien. Je suis parti de là pour aller à Koumdoum. J'ai ouvert un bar. Bon, ça ne donnait pas. Parce qu'en fou, je faisais en fait les recettes de 2 millions, 3 millions. Quand j'ai quitté là pour rentrer sur Yaoundé, j'ouvrais le bar pour vendre 70 000, 80 000. Avec les séquelles de ça, quelque chose m'a dit c'est mieux de rentrer d'abord au village.
L'aucun meurtri, c'est un jeune homme plein de ressources qui se remet tout de même en selle.
Comme quelqu'un doit toujours faire d'abord dans ce qu'il connaît, j'ai créé une entreprise qui faisait dans le commerce général où j'ai ouvert mon premier bar dépôt avec l'hébergement à l'entrée-groupe 3. Ayant de l'espace, je faisais aussi l'élevage de porc.
L'exploration de ce nouveau secteur d'activité n'a pas été sans conséquences.
Je suis actuellement comme un bébé qui apprend à marcher à cause de la grippe aviaire parce que j'ai été sauvagement touché. Avant la grippe aviaire, j'avais 116 porcheries. Alors la peste porcine avait ravagé. Pendant que je savais que je devais me remonter avec la filière pondeuse, la grippe aviaire est venue. Ça a également touché les éleveurs.
Des accidents de parcours qui n'ont en aucun cas ébranlé la détermination de Steve Merlin Ditafo. Le jeune entrepreneur fait preuve de courage, d'abnégation et d'ardeur au travail face à l'adversité. Ariane Conan, Bafoussam, pour le Journal des Régions.
Dans le sud, les exploitants de motocycles de la ville de Ngoulmakan à l'école de la bonne conduite. C'est dans le cadre d'une session de formation et de sensibilisation organisée par l'exécutif communal avec l'encadrement technique de la délégation départementale des transports de la Villa. Une initiative qui pourrait transformer le visage du transport urbain de cette ville, porte d'entrée du sud. Anissa Sister et Siane, reportage.
Elles étaient là, soigneusement garées, devant la mairie de Ngoulmakan. Ces motos, outils de travail quotidien de près de 50 conducteurs, ont marqué une pause. Leurs propriétaires ont troqué les guidons pour les bancs le temps d'une formation destinée à assainir le secteur des motocycles et améliorer l'image de la ville. Pierre-Alexis Mbazegu, deuxième adjoint au maire.
La commune d'Ngoulé-Macon a décidé de former la majeure partie de ces jeunes à l'effet de les outiller. Il ne suffit pas d'être sur un engin, transporter des vies humaines et les mettre en péril. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il fallait faire le sacrifice pour les rendre plus aptes à exercer leur activité.
Durant 3 jours, ces conducteurs participent à des ateliers animés par des professionnels du transport. Au programme Code de la route, mécanique de base et bonne pratique de conduite. Joséphine Bilois, déléguée départementale des transports pour la ville, et Amougou Melingui, conducteur de moto.
Au ministère des Transports a pour slogan « Prévention et sécurité routière, une affaire de tous ». C'est justement l'opportunité pour nous de donner cette maîtrise du code de la route aux mototaximens de la ville d'Ngoulé-Macon.
Nous sommes tellement contents pour la confiance que l'État nous fait. Ça prouve vraiment que non. L'État compte sur nous en nous formant gratuitement.
À l'issue de la formation, une composition déterminera les conducteurs aptes à recevoir leur permis AM, symbole d'une nouvelle ère pour la mobilité locale. Ngoulé-Macon, Anissé Sesterétienne, CR TV.
Autonomisation des réfugiés nigérians de l'extrême nord. Un nouveau projet vient d'être lancé au camp de Minawao. Par cette initiative, le Bureau d'assistance humanitaire de l'aide américaine au Cameroun entend, aux côtés du gouvernement, renforcer la résilience de ces réfugiés à travers la production agro-pastorale. Francine Djaba de CRTV Extrême Nord nous en dit plus.
Pour les réfugiés du camp de Minawao, c'est un autre espoir qui renaît avec ce nouveau projet de résilience dénommé Juria et Rice.
Haruna Hamid, elle est vulnérable, là, ils sont en train de seulement souffrir ça parce qu'il n'y a pas à manger au camp. Puis qu'on a suivi qu'il y a un partenaire qui va arriver au camp pour nous aider, nous sommes très contents.
Mise en œuvre conjointement par le Catholic Relief Services et le Danish Refugee Council, ce programme de 2 ans aidera plus de 17 000 réfugiés à devenir autonomes. Christophe Joeven, représentant pays du CRS pour le Cameroun et le Tchad.
Le gouvernement a mis plus de 100 hectares de terres à disposition. Donc on va les accompagner pour pouvoir valoriser ces terres et avoir des récoltes suffisantes. On va également faire des groupes d'épargne et de crédit qui vont permettre d'avoir revenus financiers.
Benoît Couturier, directeur pays d'IRC Cameroun.
Pouvoir couvrir leurs besoins de base après avoir un accompagnement sur des formations professionnelles, mais aussi choisir aussi les métiers qui peuvent avoir des débouchés, pouvoir commercialiser en fait leur production pour pouvoir justement être autonome.
Lancé par le Bureau d'assistance humanitaire de USAID au Cameroun, le projet Juria et Rice, d'un montant de 4 milliards de francs CFA, vient à point nommé compléter les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions durables pour les réfugiés. Minawao, Francine Djaba, CR TV.
Dans le nord, la bouillie de mil rouge est un plat de base dans de nombreuses cultures dans la cité capitale. Appréciée pour sa cuisson, son goût délicat et sa richesse nutritionnelle, cette céréale riche en nutriments favorise une bonne digestion et régule le taux de cholestérol dans l'organisme. Le reportage de Ino Orpa à Garoua.
La cuisson du mil rouge est une tradition dans la région du Nord et remonte à des siècles. Dans cette partie du pays, le couscous de mil rouge, riche en nutriments, est utilisé en cuisine comme élément de base de plats traditionnels. Parmi les boissons prisées au petit déjeuner par les populations du Nord, figure également la bouillie du mil rouge.
Concernant la cuisson de la bouillie du mil rouge, on a besoin de la farine, du mil rouge déjà prêt et de l'arachide. On fait le mélange, on le tamise et on le met au feu.
Pour la préparation, on va mélanger la farine du mil rouge avec un peu d'eau froide et on va mettre un peu d'eau au feu. Dès que ça bouillit, on va donc verser le mélange de la farine du mil rouge avec un peu d'eau dans notre eau chaude. Et on va donc remuer pour éviter les boules et ajouter un peu de sucre. Là, c'est pas obligé. Et après, on fait descendre du feu et on passe à la dégustation.
Selon la quantité, la préparation de la bouillie du mil rouge peut durer plusieurs heures. Elle nécessite patience et attention pour obtenir une texture et une saveur parfaite, riche en protéines, La bouillie du mil rouge est alimentaire spécifique tels que les régimes sans gluten.
La bouillie du mil rouge renforce l'os de l'enfant et de l'adulte et ça donne de l'énergie. Et l'enfant est plus fort quand il consomme la bouillie du mil rouge. Il y a certaines personnes aussi qui utilisent le mil rouge pour certains traitements traditionnels parce qu'il y a certaines écorces qu'on exige qu'il faut absolument du mil rouge.
La bouillie du mil rouge soigne les problèmes de digestion, par exemple si on a la diarrhée ou même la constipation, ça peut aider.
La cuisson du mil rouge est une tradition africaine qui continue de jouer un rôle important dans la culture et l'histoire. Ce plat délicieux et nourrissant est un symbole de l'hospitalité et de la convivialité. Garoua et Orpa pour le journal des régions.
Deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya. La délégation centrafricaine vient de fouler le sol de Bagofit dans la région de l'Est. La grande tribune de 1000 places assises est déjà prête et les préparatifs sous la houlette du ministre Joseph Lay gagnent en intensité afin qu'aucune fausse note ne soit enregistrée le jeudi 28 novembre. Jour de démarrage des activités parrainé par la première dame, Madame Chantal Biya. Détail avec Elvis Nguimaison à Bagofit.
Déployez-moi toutes les équipes déjà pour la salle de banqueur.
Les minutes s'égrènent rapidement au complexe Bagofit Sun City. La deuxième édition de la course nationale VTT, Chantal Biya s'approche à grands pas et le ministre Joseph Lay veille au grain. Luc Assin, directeur d'exploitation.
Tous ceux qui vont arriver seront à l'aise pour l'accueil. Les équipes sont déjà mobilisées.
La structure se métamorphose, les populations se sentent spontanément mobilisées pour un nettoyage général. Aimé Césaire Fouam, habitant de Bagofit.
On voulait donner un coup de main pour que toute la cité qui va abriter la course VTT soit nickel.
Les délais de livraison de la grande tribune ont été respectés. Robert Bidimé, conducteur des travaux.
Actuellement, la structure est prête à accueillir 1000 personnes.
Les 12 km de pistes cyclables ont été électrifiés. Gérardin Ateba, responsable électricité.
Nous avons électrifié les vestiaires, la tribune, et nous avons mis déjà 30 lampadaires sur le parcours.
40 tentes sont montées pour les expositions. Ngouloure Moulium est artisan.
La répartition des stands, c'est prévu pour mercredi.
Un centre du vivre ensemble est sorti de terre. Et comme à chaque édition, les populations sont attendues au centre médicalisé d'arrondissement de Bagofit pour des soins de santé gratuits offerts par la première dame Chantal Biya. Docteur Akoum Pouamé, médecin-chef.
Nous aurons au minimum 4000 personnes. Il faut noter que l'ensemble de cette offre de soins sera totalement gratuite.
Les coureurs centrafricains sont déjà à Bagofit. Et l'événement s'ouvre le jeudi 28 novembre prochain par une marche sportive dans les rues d'Abomban. Bagofit, Elvis Guimaison, CIA TV.
C'est avec ce reportage d'Elvis Guimaison que le journal des régions se ferme. Jean-Olivier Ouna.
Rendez-vous demain à 11h.